Vous écoutez, on lit pour vous.
L'empreinte environnementale insoupçonnée de l'intelligence artificielle générative. Un texte de Sébastien Auger, publié le 8 janvier 2025 sur le site de Nouveau. L'IA par-ci, l'IA par-là, l'intelligence artificielle était sur toutes les lèvres en 2025 et ce sera encore assurément le cas cette année. Les outils d'IA générative, comme un certain ChatGPT, étaient certes déjà connus, mais les derniers mois ont clairement constitué l'apogée de leur démocratisation. Aussi artificielle soit-elle, l'IA a des impacts environnementaux bien réels. Son utilisation accrue augmente donc son empreinte écologique. Les experts estiment qu'une requête à ChatGPT nécessite au moins 10 fois plus d'électricité qu'une recherche sur Google. À lui seul, le produit phare d'OpenAI attire 800 millions d'utilisateurs et reçoit 18 milliards de requêtes par semaine. Chaque étape du processus menant à la création de ces populaires applications est associée à un coût environnemental élevé. Le Programme des Nations Unies pour l'Environnement, PNUE, a sonné l'alarme à sa dernière Assemblée générale en décembre. Les phases d'apprentissage et d'inférence, c'est-à-dire lorsqu'un modèle applique ses connaissances pour répondre à une demande, entraînent une forte consommation d'énergie et d'eau et ont ainsi une incidence sur le climat, tandis que la production de matériel destiné à l'intelligence artificielle repose sur l'utilisation de terres rares, lesquelles sont souvent extraites dans des régions écologiquement sensibles de pays du Sud. De telles activités peuvent contribuer à la perte de la biodiversité, à l'insécurité hydrique et à l'augmentation des déchets d'équipements électriques et électroniques, indique le rapport du PNUE. Ces préoccupations sont partagées par la Québécoise Sacha Lucioni, une sommité mondiale en matière de recherche sur l'empreinte carbone de l'IA. Dans les dernières années, on a vu que le coût énergétique de l'IA monte et que cette énergie vient principalement de sources non renouvelables, alors c'est inquiétant. On a zéro transparence sur les vrais coûts pour la planète, a-t-elle déploré au sommet de Paris sur l'intelligence artificielle l'hiver dernier. Le problème commence à la base, dans les centres de données où se déroule l'entraînement et le déploiement des modèles d'IA grâce à des ordinateurs superpuissants, appelés GPU, dans le jargon. L'énergie utilisée pendant ces millions d'heures d'entraînement cause des effets importants sur la planète. La lourdeur de ces systèmes nous amène un pas de plus vers la catastrophe, prévient Frédéric Bruno, chercheur associé à l'Observatoire international sur les impacts sociétaux de l'IA et du numérique. Selon une étude de l'Université du Massachusetts, le processus de formation d'un seul modèle produit environ 625 000 livres de dioxyde de carbone, environ 283 500 kg, ce qui équivaut à presque 5 fois les émissions d'une voiture moyenne durant toute sa durée de vie. La complexité croissante des modèles et la fréquence des réentraînements ne font qu'amplifier l'empreinte carbone de l'IA générative. Remplacer les énergies fossiles par l'hydroélectricité diviserait par 100 le niveau de consommation requis. Or, ce n'est pas la tendance prise par l'industrie qui privilégie plutôt le gaz naturel ou le charbon. Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a d'ailleurs lancé un cri du cœur aux grands acteurs de l'IA avant la conférence de Belém sur les changements climatiques, COP30, l'automne dernier. En 2030, l'IA consommera autant d'électricité que le Japon aujourd'hui. J'appelle toutes les grandes entreprises technologiques à alimenter tous les centres de données avec de l'énergie renouvelable d'ici 2030, a-t-il plaidé. L'Agence internationale de l'énergie, AIE, s'attend même à ce que la demande énergétique de cette industrie double dans les prochaines années. En 2024, les centres de données représentaient 1,5% de la consommation mondiale d'électricité, 415 TWh, selon un rapport de l'AIE publié en avril dernier. Ce chiffre devrait grimper à 3% d'ici 2030, 945 TWh, et pourrait même atteindre 1500 TWh, avance Shift Project, un groupe de réflexion français spécialisé sur cette question. La prévision de 945 TWh correspond à 1,5 fois la production totale d'électricité du Canada en 2023, 613 TWh, selon Statistique Canada. Google, Microsoft, OpenAI et d'autres géants du domaine de l'IA ont manifesté leur intérêt pour la technologie de l'énergie de fusion, qui combine deux noyaux atomiques légers pour en former un seul plus lourd, comme moyen d'alimenter leurs centres de données. Ce processus libère une énorme quantité d'énergie et est considéré comme une solution prometteuse au changement climatique provoqué par la combustion des énergies fossiles. Mais il est encore loin d'être accessible par rapport aux technologies propres actuelles, telles que l'éolien et le solaire. Allô, à l'aide. Avant la COP30, M. Guterres a aussi livré un plaidoyer à la défense de l'or bleu. Comme toutes les industries, elles doivent utiliser l'eau de façon durable, sans leur système de refroidissement, a-t-il exigé. Ce n'est cependant pas du tout la norme actuellement. Déjà, en 2023, l'AIE estimait que le secteur de l'IA utilisait 660 milliards de litres, soit plus que la quantité totale d'eau embouteillée consommée annuellement à l'échelle mondiale. L'Agence internationale de l'énergie a calculé que le refroidissement des parcs de serveurs accaparait à lui seul 373 milliards de litres. C'est la phase la plus gourmande en eau, loin devant les autres étapes essentielles que sont la production d'électricité, 140 milliards de litres, et la fabrication du matériel, 47 milliards de litres. Et tous ces chiffres ont bondi depuis 2 ans. Jusqu'à 19 millions de litres d'eau par jour peuvent être nécessaires pour faire fonctionner un grand centre de données, rapporte l'organisme indépendant Pew Research Center. C'est comme si chaque Canadien gaspillait quotidiennement un demi-litre d'eau pour alimenter un seul parc de serveurs. Le Québec en compte plus de 80 sur son territoire. En 2025, ceci demandait une puissance moyenne de pointe de 150 MW, soit à peine 0,375% de la capacité actuelle du réseau d'Hydro-Québec, qui est de 40 000 MW. Cette proportion est toutefois appelée à prendre de l'ampleur au fil des ans. La société d'État prévoit avoir besoin d'une puissance de 1100 MW en 2035, soit 7 fois plus qu'aujourd'hui, pour répondre à la demande grandissante, attribuable en partie à l'IA. La croissance incessante des applications d'IA générative inquiète M. Bruno, qui est aussi cofondateur du laboratoire d'éthique du numérique et de l'IA. L'intelligence artificielle est désormais démocratisée. Tout le monde a ça dans sa poche et effectue des recherches sur tout et n'importe quoi. Il y a bien des gens qui s'en servent comme du moteur de recherche Google, qui a déjà un impact, mais là, chaque requête sur ces grands modèles de langage a un impact très, très important sur l'environnement, qui deviendra de plus en plus grand avec le temps. Il souligne qu'il existe des modèles plus frugaux, mais qu'ils ne sont pas les plus populaires. ChatGPT trône encore en tête de liste, mais il fait face à une concurrence grandissante de Gemini, de Google, qui revendique plus de 650 millions d'utilisateurs, et d'autres applications comme Copilot de Microsoft. En plus, les modèles changent, alors il faut constamment les entraîner, rappelle M. Bruno. Ce sont des milliers d'ordinateurs qui roulent 24 heures sur 24 pendant des mois pour entraîner les modèles, et ensuite, ils continuent de fonctionner sans arrêt. Ce sont donc des échelles sans commune mesure avec d'autres utilisations d'Internet. Besoin urgent de normes. La technologie est bien pratique, mais elle contribue à la crise climatique. Google ne s'en cache pas. Le géant de la recherche en ligne, qui a lancé en novembre son modèle Gemini 3, a reconnu récemment que l'explosion des besoins en matière d'IA compromettait ses efforts de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, GES, et qui sont plutôt en hausse de 48% en 5 ans. Google promet même d'atteindre la neutralité carbone d'ici 2030, mais cet engagement semble de plus en plus voué à l'échec. Devant ces constats alarmants, le PNUE préconise l'adoption d'une approche équilibrée, fondée sur des données probantes et alignée sur le pacte numérique mondial. Il juge qu'il y a un besoin urgent de normes reconnues au niveau international pour évaluer et réduire l'empreinte environnementale de l'intelligence artificielle tout au long de sa chaîne de valeur. En attendant, la sobriété s'impose. Réduire son utilisation de l'IA générative peut être une idée originale de résolution du nouvel an, mais il est probablement déjà trop tard. Les pratiques vont peut-être changer, on va peut-être l'utiliser différemment, mais c'est déjà intégré dans la vie quotidienne de plus en plus de personnes, observe M. Bruno. C'est un autre élément qui s'ajoute à la longue liste des impacts des technologies numériques sur l'environnement. C'était l'empreinte environnementale insoupçonnée de l'intelligence artificielle générative, un texte de Sébastien Auger, publié le 8 janvier 2025 sur le site de Nouveau.
Des milliers de glaciers à travers le Canada menacés d'extinction. Un texte de Jordan Olmsted de la presse canadienne paru le 15 décembre 2025 dans Le Devoir. Des milliers de glaciers à travers le Canada pourraient être sauvés de l'extinction totale d'ici la fin du siècle si l'humanité parvient à infléchir la courbe du réchauffement climatique, selon une nouvelle étude mondiale qui dresse un tableau sombre de l'un des symboles mondiaux du changement climatique. L'étude, publiée lundi le 14 décembre 2025 dans la revue scientifique Nature Climate Change, estime que près de 80 % des glaciers du monde disparaîtront d'ici 2100 si le réchauffement climatique se poursuit au rythme actuel, soit environ 2,7 Celsius au-dessus de la moyenne pré-industrielle. Ce pourcentage tombe à 63 % à 2 Celsius, soit environ 34 000 glaciers de moins qui disparaîtront complètement. L'article introduit le terme de « pic d'extinction des glaciers » pour décrire l'année où l'on prévoit la disparition du plus grand nombre de glaciers d'ici la fin du siècle. Avec un réchauffement de 1,5 Celsius, environ 2000 glaciers disparaissent chaque année, avec un pic prévu autour de 2041. À 4 degrés Celsius, ce pic se déplace vers le milieu des années 2050 et s'intensifie pour atteindre environ 4000 glaciers par an, le réchauffement climatique entraînant la fonte de glaciers plus importants. Cette perte record de glaciers individuels est bien plus qu'un simple cap numérique. Elle marque un tournant aux conséquences profondes pour les écosystèmes, les ressources en eau et le patrimoine culturel, indique l'étude menée par une équipe de l'ETH Zurich, une université suisse. Alors que se multiplient les rituels de deuil, les mémoriaux et les cimetières de glaciers, la disparition des glaciers passe d'une préoccupation scientifique à un récit humain de paysages qui s'effacent, de traditions qui s'estompent et de modes de vie bouleversés, ajoute l'étude. Le changement climatique alimenté par la combustion des énergies fossiles a déjà considérablement réduit la superficie des glaciers de la planète. Une étude publiée plus tôt cette année estimait que les glaciers ont perdu environ 6 500 milliards de tonnes de glace depuis le début des années 2000 et que ces pertes s'accélèrent rapidement ces dernières années. La plus récente étude suggère que l'Arctique méridional canadien pourrait perdre 34 % de ses glaciers d'ici la fin du siècle si le réchauffement climatique atteint 1,5 Celsius, contre jusqu'à 60 % si le réchauffement climatique se poursuit sur sa trajectoire actuelle d'environ 2,7 Celsius. Dans ce contexte, la grande majorité des glaciers de l'Ouest canadien et des États-Unis disparaîtraient. Avec un réchauffement catastrophique de 4 degrés Celsius, la quasi-totalité des glaciers de l'Ouest canadien et des États-Unis disparaîtraient, ainsi que 81 % de ceux de l'Arctique méridional. Les chercheurs démontrent que d'autres études se sont souvent concentrées sur l'estimation de la perte de masse et de superficie des glaciers liée au réchauffement climatique. Ces études permettent de mieux comprendre les risques considérables que représente la montée du niveau de la mer et la pénurie d'eau pour les nombreuses communautés qui dépendent de l'eau de fonte des glaciers. Une étude de 2023, publiée dans la revue Science, estimait que les glaciers, à l'exception des calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland, pourraient perdre un quart de leur masse avec un réchauffement de 1,5 Celsius et jusqu'aux deux tiers avec un réchauffement de 4 degrés Celsius, ce qui se traduirait par une élévation du niveau de la mer comprise entre 90 et 150 mm. Une grande partie de cette eau est stockée dans quelques très grands glaciers qui pourraient subsister jusqu'à la fin du siècle. Des preuves concrètes. Les chercheurs à l'origine de la dernière étude expliquent avoir voulu mettre l'accent sur le nombre considérable de glaciers menacés de disparition. Ce sont de véritables symboles du changement climatique, a assuré Harry Zicolari, co-auteur de l'étude et glaciologue à la Vrije Universiteit Bruxelles, université située dans la capitale belge. Si vous abordez le sujet avec quelqu'un, si vous lui expliquez dans la rue que les températures ont augmenté de 2 degrés Celsius, c'est difficile à visualiser. Mais les glaciers, eux, sont tellement concrets, a-t-il expliqué. Les chercheurs ont simulé l'évolution de plus de 200 000 glaciers à l'exclusion des calottes glaciaires de l'Antarctique et du Groenland à partir de la base de données glaciaires la plus complète au monde. À l'aide de 3 modèles différents, ils ont estimé le moment où chacun de ces glaciers deviendrait trop petit pour être considéré comme tel, selon 4 scénarios de réchauffement. 1,5 Celsius, 2 Celsius, 2,7 Celsius et 4 degrés Celsius. Selon des estimations récentes, le monde se dirige vers un réchauffement d'environ 2,7 degrés Celsius si les pays maintiennent leur politique climatique actuelle, ce qui est loin d'être garanti. Ce chiffre est largement supérieur aux objectifs internationaux visant à limiter le réchauffement à moins de 2 degrés Celsius et à viser 1,5 degrés Celsius afin d'éviter certains des impacts climatiques les plus catastrophiques et irréversibles. Des études récentes suggèrent que l'objectif de 1,5 Celsius pourrait être dépassé d'ici la fin de la décennie, même si la communauté scientifique s'accorde généralement à dire que chaque fraction de degré sera importante pour éviter une aggravation des impacts climatiques. Dans l'Arctique méridional canadien, 60 % des 6406 glaciers de la région disparaîtraient d'ici la fin du siècle si le réchauffement climatique se poursuit au rythme actuel. Un réchauffement limité à 2 degrés Celsius permettrait de sauver environ 1362 glaciers de l'extinction totale. À 1,5 Celsius, 575 glaciers supplémentaires resteraient menacés d'extinction. En moyenne, tout scénario de réchauffement confondu, la région perdrait environ 78 glaciers lors de son pic d'extinction en 2081. Une situation bien plus alarmante par endroit. Sur les 17 723 glaciers de la région, 96 % pourraient disparaître si le réchauffement climatique se poursuit au rythme actuel. Ce pourcentage tombe à 82 % à 2 degrés Celsius et à 75 % à 1,5 degrés Celsius. À 4 degrés Celsius de réchauffement, il ne resterait que 101 glaciers dans la région, soit une perte de 99 % selon l'étude. Dans l'Arctique septentrional, les pertes projetées sont importantes, quoique moins dramatiques que dans l'Arctique méridional. Si la tendance actuelle se maintient, environ 30 % des 4500 glaciers de la région disparaîtraient, contre 23 % et 19 % si le réchauffement est limité respectivement à 2 degrés Celsius et 1,5 degrés Celsius. Parmi ces glaciers menacés, figure le glacier Oswegatchuk, situé à l'extrémité sud de l'île d'Ellesmere. Oswegatchuk, qui signifie « l'endroit qui ne dégèle jamais », s'avère être l'un des glaciers qui fondent le plus rapidement dans le haut Arctique, explique David Burgess, chercheur à la Commission géologique du Canada. Le hameau Inuit, situé au pied du glacier, l'utilisait autrefois comme source d'eau potable jusqu'à ce que celle-ci soit remplacée par l'eau de fonte des neiges de montagne dans les années 1980. Le glacier, très apprécié de la communauté, est désormais plus difficile d'accès à pied et en motoneige, car à mesure qu'il recule vers le haut de la montagne, sa pente s'accentue, rendant plus difficile son utilisation par les résidents pour se rendre dans la vallée voisine, a souligné M. Burgess. Selon des estimations récentes, sa superficie est environ 2 fois moindre qu'en 1959. C'était des milliers de glaciers à travers le Canada menacés d'extinction. Un texte de Jordan Olmsted de la presse canadienne paru le 15 décembre 2025 dans Le Devoir.
À quoi sert l'aluminium dans les vaccins? Un texte de Pauline Gravel, paru le 16 décembre 2025 dans Le Devoir. Le secrétaire à la Santé des États-Unis, Robert F. Kennedy Jr., soutient que l'aluminium, qui est ajouté en quantité infinitésimale dans de nombreux vaccins pour stimuler la protection immunitaire, prédisposerait à l'autisme et aux allergies alimentaires. Persuadé de ce lien, qui n'a pourtant jamais été établi dans le cadre de centaines d'études et de milliards de doses de vaccins administrés, il a convoqué le comité consultatif sur les pratiques d'immunisation, dont il a nommé les membres, pour débattre de l'élimination des adjuvants, comme les sels d'aluminium, dans les vaccins destinés aux enfants. La plupart des vaccins qui sont administrés aujourd'hui ne contiennent qu'un petit fragment de l'agent pathogène contre lequel on désire développer une immunité, plutôt que le virus ou la bactérie en entier. Il est toutefois nécessaire d'ajouter un adjuvant à ces vaccins. Un adjuvant est un composé qui va stimuler la réponse immunitaire et induire une immunité plus forte et de plus longue durée. Sans adjuvant, ces vaccins n'induiront qu'une réponse immunitaire très faible, souligne Alain Lamar, professeur à l'INRS et chercheur à l'Institut Armand Frappier en immunovirologie. Les sels d'aluminium, le plus souvent de l'hydroxyde d'aluminium ou du phosphate d'aluminium, sont utilisés comme adjuvants depuis 90 ans. Ils ont d'abord été intégrés aux vaccins contre la diphtérie et contre le tétanos dès les années 1930. Ils font aujourd'hui partie de la composition de multiples vaccins, dont ceux contre l'hépatite B, l'hépatite A, le virus du papillome humain, VPH, et le pneumocoque. Les adjuvants remplissent leurs fonctions par différents mécanismes. Les sels d'aluminium le font principalement en déclenchant une réponse inflammatoire, explique M. Lamar. L'inflammation, c'est un peu une sonnette d'alarme pour le système immunitaire. Donc, quand l'adjuvant induit la production de certains médiateurs inflammatoires, comme l'interleukine 1 et l'interleukine 18, par exemple, à l'endroit où le vaccin a été injecté, cela va aider au recrutement de différentes cellules immunitaires. Certaines d'entre elles vont internaliser l'antigène, le fragment de l'agent pathogène, et le présenter à d'autres cellules du système immunitaire, comme les lymphocytes, qui vont produire des cellules T ou des anticorps contre l'antigène. Les sels d'aluminium vont surtout induire la production d'anticorps. Mais pour développer une immunité contre certaines infections, malaria et tuberculose notamment, et le cancer, on veut que le vaccin produise plutôt une immunité cellulaire, soit des cellules T, qui vont tuer les cellules infectées ou les cellules cancéreuses. Et c'est l'adjuvant qui va permettre d'orienter la réponse vers la production d'anticorps ou la production de cellules T, précise le chercheur. Les sels d'aluminium améliorent aussi l'immunité en formant un complexe avec l'antigène, ce qui contribue à le stabiliser et à lui permettre de perdurer plus longtemps et ainsi de pouvoir être plus facilement reconnu par certaines cellules du système immunitaire, ajoute-t-il. Une infime quantité de sel d'aluminium suffit pour assurer une bonne efficacité des vaccins. Cette quantité est bien inférieure à celle que l'on trouve dans les aliments et dans l'eau. Même après avoir reçu tous leurs vaccins, les enfants ont absorbé beaucoup moins d'aluminium qu'ils n'en absorbent dans leur alimentation quotidienne, souligne-t-on sur le site de l'Organisation mondiale de la santé. une multitude d'études et des décennies d'utilisation partout dans le monde ont confirmé l'innocuité des sels d'aluminium présents dans les vaccins. Aucun lien avec l'autisme et les allergies alimentaires n'a été décelé dans le cadre de la surveillance active des autorités sanitaires de tous les pays. Malgré toutes ces données probantes, Robert F. Kennedy Jr. demeure convaincu du contraire. Il a même demandé en juillet dernier à la revue scientifique Annals of Internal Medicine de procéder à la rétractation d'un article signé par des chercheurs danois dont l'étude, ayant porté sur plus d'un million d'enfants, montrait l'absence de lien entre les sels d'aluminium dans les vaccins et l'autisme, les allergies et les maladies auto-immunes. Bannir l'aluminium rendrait certains vaccins cruciaux complètement inefficaces. On ne peut pas se débarrasser d'un adjuvant qui fonctionne bien et qui est sûr avant d'avoir autre chose de reconnu comme étant une bonne option de rechange, a déclaré à la revue Nature Marco Cavalleri, directeur du Bureau des menaces sanitaires biologiques et de la stratégie vaccinale de l'Agence européenne des médicaments. De nouveaux adjuvants commencent à faire leur apparition, mais il faudra les étudier minutieusement afin de s'assurer qu'ils induisent une amplification des réponses immunitaires tout en réduisant au maximum le risque de réaction nocive, affirme à la revue Nature la professeure à l'École de médecine de l'Université de Washington à Seattle, Rhea Koehler, qui travaille au développement de vaccins, d'adjuvants et d'immunothérapie. C'était « À quoi sert l'aluminium dans les vaccins? » un texte de Pauline Gravel, paru le 16 décembre 2025 dans Le Devoir.